marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Berlin, cette nuit, les portes s'ouvrent. Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'est comme à l'ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle.
Dorénavant, les demandes d'autorisation pour les voyages privés à l'étranger peuvent être demandées sans justificatif préalable et seront accordées rapidement.
Ici, à Checkpoint Charlie, c'est une véritable liesse. Les Warburg et les Trabant, ces petites voitures des Allemands de l'est, passent sans arrêt le poste de frontière vers l'ouest. Certains Allemands de l'Est les emmènent femmes et enfants pour un premier voyage vers l'autre Berlin. Ici, à Checkpoint Charlie, la foule est venue les accueillir. Au passage, elle les arrose de fleurs. Les Allemands de l'Est sourient, ils sont un peu gênés. Après tout, ils ne sont venus que pour quelques heures, quelques jours parfois. Ils veulent profiter de cette nouvelle liberté. Mais après, ils comptent bien rentrer chez eux.
Oui, on a ouvert le mur à la pelleteuse, on a creusé aussi pour mettre des dalles, pour permettre le passage des gens. Ça fait une brèche de 3 mètres à peu près. Et ce qui était extraordinaire ce matin, c'était de se trouver là au milieu avec cette foule de gens qui passaient.
Le violoncelliste Vladimir Rostropovitch, venu seul ce samedi au pied du mur, fêtait à sa manière l'événement avec pour seul compagnon son instrument.
Si la chute du mur est le symbole de la victoire des peuples sur la dictature, on ne peut comprendre l'événement sans le réinscrire dans l'histoire longue du bloc soviétique et de la guerre froide. Quel rôle a réellement joué Gorbatchev et la perestroïka ? Quelle influence ont eu les événements de Tiananmen et les mouvements démocratiques pionniers, que ce soit en Chine donc, en Pologne ou encore en Hongrie ? Et quel impact a eu la chute du mur sur les négociations entre pouvoir blanc et ANC en Afrique du Sud, puisque Frédéric de Klerk annonce l'autorisation des partis politiques et la libération des prisonniers de Nelson Mandela, 3 mois après le 9 novembre 1989. La chute du mur suscite une myriade de questions, comme le montre si bien notre invité historien Pierre Grosser dans son livre réédité et augmenté aux éditions Tempus, 1989, l'année où le monde a basculer. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Le jour J, le 9 novembre 1989, quelle est la première question que l'historien que vous êtes s'est posée au moment de l'événement ?
Le problème, c'est qu'on n'avait pas le temps de se poser des questions en 1989. On avait, et c'est un sentiment qui est quand même assez jouissif, d'une histoire qui s'accélère et qui en plus s'accélérait plutôt dans le bon sens. On avait cette impression-là, puisqu'à peine la chute du mur, les caméras se sont braquées sur les événements de Tchécoslovaquie, donc ces foules absolument considérables, et l'arrivée au pouvoir de Václav Havel. Ensuite, à peine on avait respiré, eh bien, c'était ce qui s'est passé en Roumanie, avec ces images tout à fait terribles de l'exécution des Ceausescu, mais en même temps, la fin d'une dictature en Roumanie. Donc, on avait de quoi faire et de quoi, finalement, halter pendant toute cette année 89.
De Géorgie, le 9 novembre 1989, vous, Jacqueline Deyrens, vous en avez quel souvenir ?
Le souvenir que j'en ai, c'est que, moi je n'étais pas acteur, bien sûr, j'ai vu ça comme ça, comme tout le monde, hein, la radio, la télévision, etc. Mais pour moi qui étais militante anti-apartheid et mes amis qui étaient militants anti-apartheid, la question c'est de dire, et alors maintenant, que va-t-il se passer en Afrique du Sud ? C'était notre question. Et on savait très bien que les pourparlers pour la libération de Mandela avaient commencé bien avant, mais on avait quand même beaucoup de points d'interrogation sur la suite.
Vous étiez dans le secret des dieux. Vous êtes notre grand témoin en tant que militante communiste, en tant que militante anti-apartheid. Alors avant de revenir sur les conséquences de la fin de la guerre froide, sur la fin de l'apartheid, je vous propose à tous les deux de revenir sur la vision politique et sur la personnalité d'un certain Mikhail Gorbatchev, secrétaire général du comité central du Parti communiste d'Union soviétique de 1985 à 1991. Écoutez comment l'un de ses premiers conseillers, Anatoli Tchernaïev, brosse un portrait avantageux d'un homme qui va surprendre les soviétiques.
C'est la première fois qu'un homme doté de moralité est arrivé au sommet du système soviétique. Cet homme arrive au pouvoir et voit l'héritage que lui ont légué ses prédécesseurs, Brejnev, Andropov, Tchernenko, etc. Une économie en ruine, minée par le complexe militaro-industriel et la course aux armements, qui non seulement gangrène l'économie, mais aussi le psychisme de la société tout entière. Et cet homme s'aperçoit que la course aux armements a atteint un degré tel que la moindre erreur, la moindre défaillance technique peut plonger l'humanité dans une guerre nucléaire.
La moralité de Mikhaïl Gorbatchev face à la course à l'armement, mais aussi face à l'état de déliquescence de l'économie soviétique. Nous sommes au milieu des années 80. Mikhaïl Gorbatchev veut des changements.
Je réalisais ce que signifiait prendre les fonctions de secrétaire général à l'époque. La situation du pays était grave, très grave. J'étais sûr qu'on avait besoin de changements. Avec le chanteur Tsoï, j'étais pour les changements.
Des changements chantent nos cœurs, des changements demandent nos yeux, nous attendons des changements, chante Victor Tsoï, accompagné par son groupe Kino. Alors, quels sont les changements proposés par Gorbatchev avec la perestroïka? Et en quoi proposerait-il une politique plus morale que ses prédécesseurs, Pierre Grosser?
Alors déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'a pris conscience des déficiences considérables du système soviétique que progressivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'en 85, il arrive sabre au clair en disant « je vais faire des réformes, j'ai déjà réfléchi à tout ce que je vais faire ». Petit à petit, il prend connaissance de tous les problèmes qui existent. Et c'est seulement à partir vraiment de 1987... voire 88, qu'on enclenche des transformations tout à fait majeures. Et une de ces transformations, ce n'est pas seulement la perestroïka, c'est la glasnost, la transparence, c'est-à-dire que la parole se libère en Union soviétique. Et ça, ça va avoir des conséquences tout à fait considérables, parce qu'évidemment, on démonte le mensonge du régime, les mensonges historiques et les mensonges du régime sur sa propre réalité. Ce qui, je crois, est le plus notable sur Gorbatchev, qui est vraiment un personnage absolument majeur, et je crois que c'est difficilement imaginable tous les événements des années 80 sans Gorbatchev. La première chose, c'est que c'est un croyant communiste. Donc il ne faut pas imaginer que c'était un gentil social-démocrate ou autre chose. C'était un croyant communiste, mais du communisme des origines, c'est-à-dire vraiment d'essayer de construire une société socialiste sans les perversions staliniennes, sans les perversions d'un système bureaucratique complètement ankylosé, etc., etc. Et donc il a voulu revenir pratiquement aux origines du système qu'il idéalisait un peu. Mais voilà, donc c'est un croyant, ça c'est très important. La deuxième caractéristique de Gorbatchev, et là on touche vraiment aux questions de moralité, c'est quelqu'un qui répugne à l'usage de la force. Et c'est absolument fondamental pour toute la séquence, parce que à plein de moments, on a pensé que les soviétiques ne pourraient pas accepter les transformations qui avaient lieu, que ce soit, dont on parlera sans doute tout à l'heure, les élections en Pologne, où vous avez des candidats non communistes qui remportent ces élections, que ce soit évidemment la chute du mur ou d'autres événements. Et donc, on pouvait imaginer que l'Union soviétique utilise la force comme elle l'avait fait quand même auparavant. C'était traditionnellement une politique soviétique, même si c'était amoindrie, c'est-à-dire qu'on ne pratiquait plus des invasions de type Budapest, par exemple pour la Pologne. On sait très bien que les soviétiques ne voulaient pas intervenir en Pologne au début de l'année 1981. Donc ça, c'est une caractéristique fondamentale, la répugnance à l'usage de la force. Et la troisième caractéristique, me semble-t-il, de Gorbatchev, c'est une très haute confiance en lui. C'est-à-dire qu'il a eu l'impression quand même d'avoir raison, même quand les choses se passaient assez mal. Ce qui avait un certain avantage, c'est-à-dire que comme le système soviétique est très hiérarchisé avec un chef en haut, quand il prenait des décisions, évidemment, ça a eu des conséquences tout à fait considérables. S'il y avait eu, j'allais dire, une démocratie, d'une certaine façon, il y aurait eu des débats, ça aurait traîné, etc. Là, la conversion de l'Union soviétique, par exemple, à l'acceptation de l'unification allemande, c'est un choix de Gorbatchev, on ne pouvait pas en discuter. Donc, il avait une grande confiance en lui. Et je pense qu'il a été trop optimiste sur l'évolution du système socialiste. Il était persuadé que les gens acceptaient ce système socialiste. Et donc, je crois qu'il a eu beaucoup d'illusions sur les transformations du monde.
Alors, en ce qui concerne le renoncement au tout répressif, j'allais dire, Mikhaïl Gorbatchev prononce un discours extrêmement remarqué, un discours historique, en décembre 1988 aux Nations Unies. Il est en rupture, dit-il, avec la doctrine Brejnev, et il déclare que l'Union soviétique ne recourrait plus à la force pour s'immiscer dans les affaires intérieures des autres pays sans distinction de leur système politique. Vous faites référence justement aux méthodes du passé. Vous avez cité Prague, c'était en 68, Budapest, 56. Pour la mémoire collective, ça veut dire envoyer les chars.
Absolument. Alors, il faut voir qu'il y a eu cette évolution, encore une fois, que l'usage de la force est devenu de plus en plus compliqué. Et ça, c'est une évolution finalement assez positive hein, dans l'histoire de l'Europe après 1945 et que l'on voit dans tout un tas de domaines, hein, même dans la répression policière, et pas du tout de la même nature en 1947 lors des grèves et en 1968 en France, hein, pour prendre juste cet exemple-là. Eh bien, en Union soviétique aussi, l'usage de la force est complètement différent. C'est-à-dire qu'on n'a plus les goulags, enfin, le fameux goulag des années staliniennes. Ça n'existe plus dans les années 1980. Il y a des hôpitaux psychiatriques, il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes. Donc, il y a un
déclin. Il y a des camps de relégation.
Voilà, non, mais bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'était le paradis. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'utilise pas la force du tout de la même façon et qu'il y a eu finalement une évolution assez positive qui concerne l'ensemble de l'Europe par rapport à l'usage de la force. Donc ça, c'est vraiment une transformation sur le long terme. Après, il faut bien voir que lui a fait quelques déclarations de ce type-là. Il les a fait directement à des dirigeants communistes et il les a fait donc et au Conseil de l'Europe et dans ce fameux discours absolument essentiel, vous avez raison d'insister dessus, de décembre 88 aux Nations Unies. Il faut bien voir que même s'il a fait ces déclarations, les gens qui sont descendus dans la rue étaient extrêmement courageux car on ne savait pas quelle était la réaction de leur régime.
Et de Necker,
par exemple, pour la RDA, mais on peut parler du régime tchèque, qui était un régime qui était très dur, etc. On ne savait pas si Gorbatchev allait sortir ou non, s'il n'allait pas avoir des durs autour de lui qui allaient pousser, des militaires ou autres qui allaient pousser l'intervention. Et on ne savait pas, il faut toujours se souvenir de ça, quand on réfléchit à la prudence de tous les dirigeants occidentaux par rapport à ce qui évoluait, est-ce que Gorbatchev va rester au pouvoir ?
Alors, est-ce que Gorbatchev va rester au pouvoir ? Est-ce que la vision politique de Gorbatchev a une influence directe sur les pays frères ? Est-ce que Gorbatchev parle avec Honecker en particulier après ce discours de décembre 1988 ? Est-ce que ça va changer quelque chose en RDA où le mur a été construit en 1961 ? Mur à cause duquel 136 personnes sont mortes en voulant le franchir, sans compter bien sûr toutes les victimes de la répression et tout le système de surveillance spécifique à la RDA. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va vers une autonomisation des choix de politique intérieure en RDA ?
Oui, c'est tout le problème finalement de Gorbatchev, c'est-à-dire qu'il pense qu'il a raison et donc que tous les autres dirigeants socialistes vont suivre son exemple est l'exemple de la perestroïka et des transformations. Et en même temps, il dit qu'il ne va pas intervenir dans les affaires intérieures des autres. Puisque je vous dis, c'est les deux caractéristiques finalement de Gorbatchev. Et donc, il y a une contradiction fondamentalement entre les deux. Et un des régimes qui a le plus traîné les pieds, alors évidemment, il y a le régime roumain, il y a le régime tchèque, mais c'est surtout la RDA. Gorbatchev détestait Honecker. Ça, c'est clair et net. Mais en même temps, il ne voulait pas renverser Honecker. Donc, effectivement, il y a eu un petit peu de... On avait des liens avec les dirigeants du Parti communiste, donc on l'a aidé à être écarté du pouvoir, mais c'est assez tardif finalement, puisque c'est seulement à la mi-octobre 1989 que Honecker est écarté du pouvoir.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en revanche, ce processus de démocratisation fonctionne notamment en Pologne, même si c'est une histoire qui a parfois été un peu occultée par d'autres grands événements de cette année 1989, puisque cela aboutit à des élections en juin 89, à une cohabitation entre le syndicat Solidarność et le général Jaruzelski, avec quand même un grand soutien du pape Jean-Paul II à l'époque, qui quand même incitait les Polonais à prendre leur destin en main. Est-ce que cette dimension est importante pour comprendre la démocratisation en Pologne ?
La dimension Jean-Paul II, oui, ça a été une façon, lors des visites de Jean-Paul II, pape polonais, il faut toujours le rappeler, lors de ses visites en Pologne, ça a cristallisé le nationalisme polonais qui a une dimension, qui a pris une dimension catholique extrêmement importante, même si la pratique avait diminué et si même certaines positions du pape, par exemple sur l'avortement, n'étaient pas spécialement acceptées en Pologne. Je crois qu'il ne faut pas faire de Jean-Paul II l'homme qui a complètement transformé l'Europe de l'Est et que Gorbatchev a quand même eu un rôle beaucoup plus important. Je crois que sur le cas polonais, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que d'une certaine façon, les pauvres Polonais ont été un petit peu privés de la grande histoire. Pourquoi ? Parce que le 4 juin, quand il y a ces fameuses élections, en même temps, il y a Tiananmen. Donc, on regarde Tiananmen alors que dans ces élections, les quelques postes qui ont été mis aux élections libres ont été gagnés par Solidarnosc et les communistes se sont fait complètement écraser dans ces élections. Donc, à partir de ce moment-là, on a eu pour la première fois un premier ministre non communiste. Et il a été, j'allais dire, béni à la fois par Gorbatchev et par George Bush, le père, bien sûr. Et donc, ce 4 juin, finalement, il est perdu pour les Polonais en termes d'histoire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on se rappelle de 89, de la chute du mur de Berlin ? Alors qu'en fait, ils avaient fait déjà des avancées tout à fait considérables, les Polonais. De la même façon, les Hongrois, c'est eux qui ont ouvert le rideau de fer. Et on oublie la plupart du temps le rôle de la Hongrie dans les événements de 1989.
Alors c'est très très intéressant de remettre en perspective évidemment ce calendrier, cet agenda 1989 avec l'exemple de la Chine, où le mouvement étudiant très largement aspire à une liberté de parole, à un accompagnement des réformes, une démocratisation en tout cas interne du parti. Et finalement, ce sont les conservateurs qui vont gagner avec ces images qui ont fait le tour du monde de ces chars et de ce petit homme manifestant face aux chars. Tiananmen, une répression où les corps ont été réduits en bouillie, nous disent les témoins aujourd'hui. Est-ce que vous, Jacqueline Deyrens, en tant que militante communiste, vous avez cru à ce vent de réforme en Chine à l'époque, porté par les étudiants, mais aussi par les jeunes ouvriers et les jeunes profs?
Oui, d'une certaine façon, oui, je pense quand même que... Alors là, moi, je n'ai jamais été dirigeante communiste, donc moi, j'étais à la base.
Donc, vous regardez ça avec intérêt.
Oui, oui. Et donc, pour nous, enfin, moi, je sais que j'ai été spontanément à la manifestation organisée à Paris pour protester contre ce qui se passait à Tiananmen. Je veux dire, et j'étais pas la seule, nous étions de nombreux communistes à être dans cette manifestation. Oui, on avait vraiment l'espoir que les choses allaient un peu s'améliorer et qu'on allait aboutir à une ouverture du régime. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, mais enfin, au moins à la fin de cette répression brutale.
Pierre Grosser, est-ce qu'au fond, ces deux exemples, celui de la Chine et celui de la Pologne, ne pourraient pas être deux scénarios possibles à l'époque pour la RDA ? Scénario 1, Honecker envoie les chars aux manifestants, comme en Chine. Scénario 2, Honecker négocie et réforme de l'intérieur, comme en Pologne. Est-ce qu'il y avait ces deux possibilités à l'époque ?
Oui, absolument. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le régime estallement de Honecker, n'aimant pas les réformes de Gorbatchev, a applaudi à la répression. Et quand il y avait les manifestants...
À la répression chinoise.
La répression chinoise, bien entendu. Et quand il y avait des manifestants qui allaient descendre dans la rue, on passait à la télévision les images de la répression de Tiananmen.
À la télévision est-allemande.
À la télévision est-allemande, tout à fait.
Dans quel but ?
Justement, les effrayer.
De faire peur.
Voilà. D'effrayer les manifestants, leur dire « restez chez vous parce que vous risquez d'avoir ça ». Et donc, encore une fois, il y avait un courage tout à fait considérable de ces gens qui sont descendus dans la rue. Et rappelons qu'il y a eu aussi, quand même, au début octobre, notamment à Berlin, des manifestations qui ont été durement réprimées. Bon. Mais donc, cette répression était tout à fait possible. Et en même temps, la manière dont les dirigeants est-allemands ont applaudi cette répression a été un élément de leur délégitimation. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de gens qui sont descendus dans la rue ont été très vexés, ont été très heurtés par le fait qu'un régime communiste, parce qu'ils étaient quand même pour beaucoup communistes, les gens qui sont descendus dans la rue, puisse applaudir une répression qui certes était là aussi moins terrible que ce qui s'est passé à l'époque de Mao. Mais quand même, les images ont été très marquantes,
vous l'avez rappelé tout à l'heure. On ne sait toujours pas combien de morts d'ailleurs.
Non, mais par rapport encore une fois aux répressions de l'époque maoïste, c'est rien du tout. Enfin, je suis désolé de le dire, c'est peut-être horrible de dire ça. Mais
c'est l'historien
voilà,
qui parle.
Voilà, c'est, enfin, en termes quantitatifs, c'est vraiment beaucoup moins important. Donc on peut aller jusqu'à jusqu'à 10 000 morts au grand maximum, ce qui, vous allez me dire, est tout à fait terrible. Mais par rapport aux millions, c'est un chiffre moins important. Mais il faut bien voir que ces images circulaient à travers le monde. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, par exemple, le président Bush, on lui reprochait beaucoup d'être un peu tiède sur tous ces mouvements, de ne pas les encourager, etc. Mais on sait qu'il avait, quand il allait discuter de toutes ces questions d'Europe de l'Est, il avait marqué sur ses feuilles Tiananmen, Tiananmen. C'est-à-dire que si on encourage trop les opposants, si on encourage trop les manifestations, et qu'on a l'impression que c'est la main étrangère, en fait, qui manipule les manifestants, il risque d'y avoir une répression de la même façon.
Justement, les manifestants, écoutons-les. Je vous propose de retrouver l'atmosphère de l'ex-RDA. Nous sommes dans les quartiers nord de Berlin, ancien quartier ouvrier, avec Dirk Molt. Il avait à l'époque 19 ans, au moment de la chute du mur. Et lui, il est engagé, évidemment, dans le mouvement punk.
Die Leute haben sich verweigert.
Les gens se sont rebellés. Ils n'allaient pas aux parades. Et ils ont essayé de se retirer de la société. Et c'était contre l'idéologie communiste parce que tout le monde devait faire les choses ensemble. C'était par exemple beaucoup de gens qui ne sont pas allés travailler ou qui ne voulaient pas aller travailler.
Nous nous baladons à Friedrichshain. Autour de nous, il y a encore des squats, moins nombreux qu'à la chute du mur. Mais par exemple, nous sommes au pied d'un immeuble avec des tas de banderoles accrochées au mur, avec des tas de tags, avec un groupe de jeunes qui discutent, qui fument des cigarettes, qui boivent des bières. Tout ça dans une ambiance très bon enfant. On entend la musique, tiens d'ailleurs, à travers les fenêtres du squat. Dans ce squat, ils écoutent Tom Waits. Qu'est-ce que vous écoutiez, vous, comme musique à l'époque? Qu'est-ce qui était subversif, de la musique américaine, anglaise?
Für mich war das, als ich so 14 war, waren das so die Rolling Stones zum Beispiel und die Kings, die noch nicht in den DDR-Radios gespielt wurden.
Quand j'avais 14 ans, pour moi, c'était les Rolling Stones ou les Kings qui n'étaient pas encore joués en RDA. Plus tard, c'était des groupes anarchistes comme Tone, Steine Scherben ou des groupes de punk. Il y en avait certains qui avaient des vinyles de l'Ouest. Et donc, on se les empruntait et on les jouait. Et ça se passait aussi comme ça pour les autres groupes que j'ai écoutés plus tard, comme Tone, Steine Scherben ou les groupes de punk.
À cette époque, l'opposition chez les jeunes s'est beaucoup manifestée dans le mouvement punk.
Es ist ein Grund gewesen, dass sich das so als Punk gestaltet hat.
Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis rentré dans le mouvement punk. Mais en tant que punk, on était beaucoup plus présents. On apparaissait comme presque le centre du monde. Et ces gens étaient les premiers à descendre dans la rue en été 1989.
Plus de 10 000 personnes ont défilé au centre de Leipzig au cri de Gorbi, Gorbi. Car Gorbatchev est en Allemagne de l'Est l'idole de tous ceux qui luttent pour des réformes. Les manifestants ont réclamé plus de liberté, liberté d'expression et de libre circulation. La foule a scandé liberté, égalité, fraternité et chanté l'international. À Leipzig, ville industrielle du sud de la RDA, la manifestation du lundi soir est devenue une sorte de tradition. Elle se déroule toujours après un office religieux en l'église Saint-Nicolas. Puis sur le parvis, le cortège se forme, traverse la ville et se dirige vers la gare. Début septembre, il y avait 400 participants, puis 1000, ensuite 5000, la semaine dernière 8000 et hier soir plus de 10 000 personnes. Alain Bose pour France Inter.
Also bei den ersten Demonstrationen waren es nur ganz wenig, einige hundert.
Aux premières manifestations, il y avait très peu de gens, quelques centaines. Les gens demandaient des réformes, ils voulaient avoir ce Glasnost aussi en RDA. L'ouverture de la frontière n'était pas du tout encore le sujet. Nous voulions la liberté d'opinion, la liberté de la presse, on voulait pouvoir lire ce qu'on voulait. On voulait pouvoir se rencontrer dans des endroits publics. On voulait aussi se diriger culturellement comme on voulait.
Dire que vous, les jeunes, vous ne demandiez même pas que le mur s'ouvre.
C'était pas le sujet à l'époque. À l'époque, les gens ont vraiment pensé tout d'abord à pouvoir bouger librement et à pouvoir se rencontrer librement.
C'est toujours très intéressant de se remettre dans une époque, Pierre Grosser. C'était pas le sujet, l'ouverture du mur, raconte cet ancien punk.
Oui, alors il faut faire toujours attention à ces interviews, c'est que c'est évidemment une partie.
Un point de vue,
voilà,
bien
c'est
sûr.
Un point un de témoignage. Vue qui est très important parce qu'aujourd'hui, on a encore plus travaillé sur ces questions-là. On voit bien que tous ces mouvements alternatifs, qu'ils soient d'ailleurs dans le domaine écologique, dans le domaine musical, il y a des travaux aussi sur le heavy metal, pas seulement sur les punks, qui donc ont d'une façon érodé le régime de l'intérieur. Donc ça, c'est une évidence. Il n'empêche qu'il y avait des gens qui voulaient partir à l'Ouest et des gens qui le faisaient. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même dans les années 80, plusieurs centaines de milliers d'Allemands de l'Est qui sont partis en Allemagne de l'Ouest. Il y avait un certain nombre de métiers qui ont été pratiquement vidés, c'est-à-dire notamment dans les hôpitaux avec les médecins, où on perdait 20-30% des médecins. Évidemment, les manifestations elles-mêmes, c'était de dire, voilà, nous sommes le peuple, nous voulons être écoutés, et on a des problèmes avec notre régime. C'était un régime vieillissant. Honecker était vieux. Tous les régimes est du bloc soviétique, la moyenne d'âge, c'était 70 ans, au moins 70 ans.
Et ils scandaient Gorbi dans les manifs, en plus.
Voilà,
hein.
mais tout à fait, parce que c'était le réformateur. Et tout à l'heure, on parlait de la Chine. Il ne faut jamais oublier non plus qu'en en Chine, ce qui a déclenché la radicalisation du mouvement et ensuite de la répression, c'est le voyage de Gorbatchev à Pékin, l'arrivée de Gorbatchev à Pékin. Quand il est passé pas loin de la place Tiananmen, il y a eu un triomphe. Et donc, là aussi, on scandait Gorbi, Gorbi, ce qui, évidemment, pour le pouvoir chinois, était un tout petit peu gênant. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y avait des attentes qui étaient très différentes à l'intérieur de la RDA. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose aussi quand il y a une espèce de nostalgie pour la RDA ou l'idée qu'il y avait une troisième voie qui était possible, etc. Oui, il y a un certain nombre de gens qui voulaient réformer le système de l'intérieur, qui étaient des gens qui avaient vraiment la foi dans un système communiste. Et on en trouvait plus en RDA qu'ailleurs, parce que c'était vraiment fondé sur l'antifascisme, pas sur le nationalisme, à la différence d'autres pays. C'était sur l'antifascisme et donc sur la volonté de construire une société socialiste. Donc oui, il y a des gens qui le voulaient, mais une grande majorité, d'ailleurs on l'a vu au vote en mars 1990, qui ont voté de CDU, c'est-à-dire qui ont voté pour la réunification.
Jacqueline Deyrens, alors que le mur tombe et que pour beaucoup c'est déjà le symbole de la fin de la guerre froide, on parle de négociations entre le pouvoir blanc de Pretoria et puis l'ANC. Il faut quand même faire une distinction entre l'ANC et le parti communiste sud-africain. Et d'ailleurs, Nelson Mandela, dans ses lettres de prison, a tout un argumentaire. C'est un avocat, on le connaît, extrêmement précis. Il explique qu'il est un nationaliste, qu'il n'est pas un communiste, que son projet, c'est la libération du peuple noir de tous les Sud-Africains et que, certes, il a été impressionné par la lecture de Karl Marx, mais qu'il ne veut pas mettre en place un gouvernement fait d'ouvriers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette articulation Parti communiste sud-africain et bien sûr international communiste dont vous faites partie, soutien à la lutte anti-apartheid et ANC, dont Mandela va finir par devenir en prison le leader absolu, et ça va être lui qui va effectivement négocier.
Le Parti communiste sud-africain, c'est le plus vieux parti organisé véritablement d'opposition à la colonisation. On parle de 1921. Le Parti communiste sud-africain se crée en 1921. Et le Parti communiste sud-africain, à sa création, va être créé par des Blancs. Il y a dès le départ, de toute façon, une différence entre ce qui se passe en Union soviétique et ce qui va se passer en Afrique du Sud. Les communistes sud-africains, qui n'étaient pas toujours d'accord avec le grand frère, il y en a certains qui ont fini au goulag, c'était de dire, de toute façon, nous on se bat pour le socialisme, bien évidemment, puisque nous sommes communistes, mais on ne peut pas construire le socialisme si la majorité de la population sud-africaine est réduite à rien. Donc, il faut mener de front ou avec ou pendant la révolution nationale démocratique. Dans le jargon, c'est la révolution nationale démocratique et la marche vers le socialisme. Il y a quantité de textes où cette question est posée. Comment on fait, comment on articule cette révolution nationale, c'est-à-dire redonner le pouvoir, le droit de vote à la population noire, hein, c'était ça. Il faut que tout le monde vote, que l'Afrique du Sud appartienne à tous, blancs et noirs. Mais le poids du Parti communiste sud-africain est énorme parce que quand on adhérait au Parti communiste sud-africain, il fallait aussi adhérer à l'ANC. Et c'est pour ça qu'on a accusé Mandela d'être communiste.
Pierre Grosser, est-ce que dans les Suds, et également bien sûr en Afrique du Sud, le Parti communiste n'est pas aussi un outil historique pour lutter contre le colonialisme ?
Alors, tout à fait. La première chose qu'elle m'a rappelé, c'est que maintenant, c'est quand même clair avec des travaux très nombreux que Mandela était communiste. au tout début des années 60. Donc, je veux dire, il a dit après qu'il n'était pas, il essayait évidemment de prendre de la distance, mais il était communiste. Bon, il faut être clair. Dans ce cas-là, ce n'était évidemment pas une tare, puisque qui est-ce qui a été le leader de l'anti-impérialisme à travers le monde pendant très longtemps ? Ça a été le mouvement communiste international. Et d'ailleurs, c'est très important pour interpréter 1989, quand même, toute cette affaire, parce que 89, on dit, voilà, c'est la victoire de la liberté, c'est la victoire de la démocratie. C'est vrai d'une certaine façon. Mais ce qui est fascinant, c'est comment cet Occident a annexé Mandela. C'est-à-dire, finalement, on a l'impression que c'est pratiquement grâce à nous, grâce aux sanctions, etc. Mais qui a soutenu Mandela pendant si longtemps ? Qui a soutenu la lutte contre les pouvoirs blancs, que ce soit en Rhodésie, que ce soit en Angola, que ce soit en Afrique du Sud ? C'est l'Union soviétique. Alors, peut-être que l'Union soviétique avait aussi d'autres objectifs. Enfin, quand je dis peut-être, c'est évidemment vrai. Mais il faut quand même se souvenir de ça. Et donc, la victoire de 1989, c'est une partie de la victoire. Il faut voir que, d'une certaine façon, un certain nombre d'idées qui avaient été défendues par l'Union soviétique, notamment en termes anticolonial et anti-impérialiste, ont gagné aussi en 1989.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que Mandela a pris le leadership des négociations avec le gouvernement de Pretoria à l'intérieur même de la prison, des négociations secrètes qui deviennent officielles au moment de sa libération.
Bien, la question des négociations exige évidemment des concessions. On ne peut pas entrer dans des négociations lorsque l'on n'est pas prêt à faire des compromis. Et les compromis portent toujours sur des problèmes fondamentaux, des revendications fondamentales des deux parties. Et si l'on n'est pas prêt à faire des compromis, ça n'a aucun sens d'entrer dans une quelconque négociation.
Est-ce que ces négociations vont commencer très rapidement avec le président de Klerk ?
Je l'espère. J'ai eu des discussions avec le gouvernement depuis 3 ans maintenant. Et je pense que c'est les rencontres que j'ai eues avec des fonctionnaires, avec des ministres et avec les deux présidents ont certainement jeté le fondement d'une négociation future.
Est-ce qu'on peut imaginer un gouvernement où cohabiteraient des Noirs et des Blancs ?
Bien, tel est notre objectif. Bien entendu, nous ne sommes pas tellement préoccupés par la couleur de la peau des gens. Nous considérons que nous sommes tous des Sud-Africains. Et que le problème racial n'est absolument pas entré en ligne de compte, et à telle enseigne que nous souhaiterions rassurer les Blancs, ils n'ont rien à craindre de la part des Noirs. Et par conséquent, lorsque nous demandons une société non raciale, ce que nous voulons dire par là, c'est que tout Sud-Africain, quelle que soit la couleur de sa peau, sera autorisé à participer au processus politique du pays et de déterminer son propre avenir.
La voix de Nelson Mandela, que vous avez rencontré plusieurs fois, Jacqueline
oui,
Deyrens,
exactement.
Dans la marche du monde, il tend la main à tous les Sud-Africains et donc il s'adresse aux Blancs qu'il veut rassurer. Est-ce que cette idée de travailler main dans la main avec les Blancs pour démocratiser l'Afrique du Sud est une idée fondatrice de l'ANC ?
Oui, il ne faut pas oublier que le Parti communiste, dès sa fondation en 1921, était un parti non racial. Et bien que fondé par des Blancs, leur premier travail important qu'ils ont fait, c'est de former des cadres communistes noirs. Et ça, c'est extrêmement important. Et en 1955, il faut rappeler qu'il y a eu ce congrès du peuple, d'où est sortie cette fameuse charte de la liberté, et dans laquelle il y a ce préambule qui a été repris et amélioré dans la nouvelle constitution sud-africaine. Le préambule disait nous adressons au monde entier pour faire savoir que l'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent, noirs et blancs. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et je voudrais aussi rajouter que quand les négociations se sont ouvertes bien sûr avec Nelson Mandela, mais autour de Nelson Mandela, il y avait les dirigeants du Parti communiste sud-africain. Et l'une des personnalités importantes, c'est Joe Slovo, qui était, secrétaire général du Parti communiste sud-africain, qui était donc blanc. Et il y avait, bien sûr, Sisulu,
Walter Sisulu.
Walter Sisulu, qui était aussi membre du Parti communiste sud-africain, mais qui lui était noir. En fait, il n'était pas vraiment noir, il était plutôt métis. Mais enfin, bon, peu importe. Donc, vous voyez, la couleur importe peu.
Mandela l'a bien rappelé. Il s'agit de préparer la transition démocratique, il s'agit de préparer des élections libres. C'est ça, la fin de l'apartheid. Et c'est une négociation qui a commencé bien avant 1990, vous l'avez rappelé. Écoutez le témoignage du chef des services secrets, Neil Barnard, au micro de Nicolas Champeau. Nous sommes en 2010.
De Klerk était furieux car il n'avait pas été informé du processus de négociation en cours. Et jusqu'à un certain point, je le comprends, c'était un ministre de premier plan dans le gouvernement Botha. Donc De Klerk était extrêmement irrité que, soi-disant dans son dos, des fonctionnaires sécurocrates avaient été aux manettes des négociations avec l'aval de Botha. Mais moi, j'étais intimement persuadé qu'il ne fallait surtout pas informer les membres du gouvernement. Et j'ai convaincu Botha, je lui ai dit, si vous les informez, les négociations capoteront dès le lendemain. La première réunion a eu lieu en 1998 dans le bureau du commandant en chef de la prison de Portsmouth, le 23 mai, je crois. Arrive Mandela, il était vêtu de son uniforme de prisonnier et avait des bottes aux pieds. Mais je dois dire que même dans cette tenue, on voyait bien que c'était un homme fier. Il dégageait une certaine grandeur et était doté d'une incroyable personnalité. Nous avons immédiatement abordé les trois questions que j'étais chargé de lui soumettre. D'abord, était-il intéressé par une solution politique, négociée dans un cadre constitutionnel? Deuxièmement, accepterait-il de renoncer à la campagne militaire de son mouvement? Et troisièmement, quelles étaient ses vues sur le futur rôle du Parti communiste? Et c'était une bonne réunion. Nous avons décidé de poursuivre le processus. Et durant 2 années, nous avons eu d'intenses négociations sur ces trois sujets-là. Il faut savoir que dans un deuxième temps, quand Mandela a été transféré à Victor Verster, nous l'avons délibérément autorisé à rencontrer ses co-détenus pour qu'ils puissent les informer, parce que nous savions qu'il était sous pression. Les autres devaient se demander, va-t-il sceller un accord secret et peut-on lui faire confiance?
Nelson Mandela a passé 27 années en prison, dont 18 à Robben Island, ainsi que ses compagnons. Ils étaient 10 sur les bancs des accusés du procès de Rivonia. Et en tout cas, il était également à l'origine du MK, la branche militaire du Congrès national africain d'Afrique du Sud, qui agissait en collaboration avec le Parti communiste sud-africain, nous l'avons rappelé, contre le régime d'apartheid, alors au pouvoir. Jacqueline Derrens, qu'est-ce que vous savez en tant que militante anti-apartheid, en tant que militante communiste, de l'implication de Moscou dans cette lutte armée?
La décision de passer à la lutte armée, c'était une discussion intense au sein de l'ANC et de ses alliés, donc du Parti communiste sud-africain. Mais quand il décide de passer à la lutte armée, parce que Mandela l'explique très bien à Rivonia, puisque le gouvernement ne veut rien entendre, à un moment donné, il faut que passer à la lutte armée.
Et puis il y a eu les massacres de Sharpeville aussi.
Le massacre de Sharpeville qui est un détonateur. Là, on s'aperçoit que le Pretoria est complètement borné et refuse toute négociation. Donc, on décide de passer à la lutte armée.
Quelle est l'implication de Moscou ?
Énorme ! Parce qu'on sait très bien que Mandela est parti en clandestinité faire un tour du monde pour juste... Il a rencontré les amis algériens. Il y a une très belle photo de Mandela avec les dirigeants de l'époque en 62. Et les Algériens vont les aider à la guérilla. Mais il faut trouver des armes. Et là, qui va fournir les armes? Bien évidemment, ça va être Moscou. Qui va fournir la formation militaire? Ça va être Moscou. Même la formation politique aussi. Donc Moscou est très impliqué. Et pas que Moscou. Parce que, par exemple, les journaux de propagande sont imprimés en RDA. Le Sechaba est imprimé en RDA.
Vous en avez d'ailleurs, vous avez apporté un exemplaire de ce Sechaba. On va le retrouver sur nos réseaux sociaux en couverture. Voilà. C'est très impressionnant de voir tous ces journaux clandestins de l'époque que vous avez conservés, Jacqueline Derrens.
Bien sûr. Et The African Communist était aussi imprimé à Leipzig. Donc, si vous voulez, le bloc communiste a joué un rôle extrêmement important. S'il n'y avait pas eu le bloc communiste, bon, on ne peut pas refaire l'histoire, je n'en sais rien, mais c'est extrêmement important. Et quand le régime d'apartheid se dit rempart contre le communisme, c'est aussi qu'il y a eu les luttes de libération en Angola, au Mozambique, et que le système d'apartheid se sent un petit peu enserré par ces nouveaux pays indépendants qui se disent marxistes-léninistes. Et il sait très bien que la lutte clandestine qui est menée à l'intérieur du pays est dirigée aussi par des communistes.
Pierre Grosser, l'Angola est un bon exemple d'une guerre froide qui est en réalité très chaude sur le continent africain.
Qui est très chaude, c'est un conflit un peu oublié, mais pour les Sud-Africains, ça a été un peu leur Vietnam. En gros, ils ont quand même subi une défaite en 1987. Ils ont été obligés de signer des accords en décembre 1988 pour pouvoir faire partir des soldats cubains qui étaient venus en nombre pour sauver le régime angolais et de donner aussi l'indépendance à la Namibie. En 1990. Voilà, c'est un élément absolument essentiel, cette paix en décembre 88 pour l'Angola, même si l'Angola va connaître encore des conflits pendant de nombreuses années. Pourquoi ? C'est parce que la justification maintenant du durcissement du régime, de la militarisation d'une certaine façon du régime à cause de ces menaces cubaines et soviétiques en Angola et au Mozambique, ça ne tenait plus. Si vous rajoutez à ça les transformations de l'Europe de l'Est, le personnage de Gorbatchev, etc., eh bien, toute la justification anticommuniste s'est cassée un peu la figure. Et même, c'est allé beaucoup plus loin, parce que la Russie, à partir de 1991, de décembre 91, va même faire beaucoup de la séduction à l'égard de De Klerk. Mandela n'a jamais été reçu à Moscou, mais De Klerk a été reçu à Moscou en 92.
Alors revenons justement sur la voix de De Klerk et sur sa vision des négociations, puisqu'il s'agit bien d'assurer la transition démocratique en Afrique du Sud pour mettre fin à l'apartheid. Je vous propose donc d'écouter la version de Frédéric De Klerk, prix Nobel de la paix avec Mandela, pour avoir travaillé à éliminer pacifiquement le régime de l'apartheid et pour l'établissement des fondations d'une Afrique du Sud nouvelle et démocratique.
During the negotiation, it became clear in the early stages that there was a big divide on the substance of issues.
Il est clair qu'au début des négociations, il y avait un grand désaccord sur les questions cruciales. Mais je peux dire que l'ANC a fait autant de concessions que nous, notamment sur les 34 principes fondamentaux qui devaient être inscrits dans la constitution de transition. Et la Cour constitutionnelle devait certifier l'intégralité de ces 34 principes. Et c'est ce qui est arrivé.
On the economic side, the ANC was fundamentally socialistic in its thinking. The influence of the South African Communist Party in its thinking was...
Sur le plan économique, l'ANC était fondamentalement socialiste. Et l'influence du Parti communiste sud-africain était partout. Ils prônaient les nationalisations pendant les négociations. Ils avaient accepté le premier budget que mon ministre des Finances avait proposé. Je parle des spécialistes économiques de l'ANC, puisqu'ils savaient qu'après les élections de 1994, le budget serait soumis à leur approbation. Mais ce budget était tout de même basé sur les grands principes du marché utilisés en Afrique du Sud depuis des décennies. Et l'ANC l'utilise encore malgré la pression du COSATU et du Parti communiste. Mbeki a su résister, mais aujourd'hui la pression s'est intensifiée pour infléchir vers la gauche la politique économique.
La voix de Frédéric De Klerk, de la même façon qu'il ne faut pas oublier les compagnons de cellule de Mandela et notamment évidemment Walter Sisulu. Pour ne citer que lui, il ne faut pas non plus oublier que ce prix Nobel de la paix, il est partagé entre Mandela et De Klerk. De Klerk, l'homme de la réforme, de la même façon que Gorby était l'homme de la réforme en Union soviétique, Pierre Grosser.
Je crois que les deux, au départ, ont pensé qu'ils pouvaient faire des réformes pour en fait sauver leur régime et préserver le régime. Et finalement, l'un n'a pas vraiment réussi, c'est-à-dire que Gorbatchev, l'Union soviétique, a disparu. Et d'une certaine façon, ça a été le cas pour De Klerk. Il a préservé quand même très largement le pouvoir économique des Blancs, puisqu'il a cité Thabo Mbeki, qui était plutôt social-démocrate et qui a été celui qui a négocié beaucoup avec les hommes d'affaires sud-africains, Blancs. Et finalement, il n'y a pas eu un transfert de pouvoir si important en République sud-africaine. Et le régime, évidemment, il n'y a plus l'apartheid, on est tout à fait d'accord. Mais en termes de système de pouvoir, il y a eu moins de transformations qu'il n'en a eu en Union soviétique.
Jacqueline Derrens. Oui,
quand de Klerk reçoit le prix Nobel de la paix, il ne faut quand même pas oublier que jusqu'au bout, il a tenté quand même de garder le pouvoir par la force. Parce que entre 90 et 94, c'est émaillé de massacres interethniques qui sont en sous-main soutenus par de Klerk. Et ça, Mandela a piqué sa colère après Boipatong, parce que là, il a dit « trop, c'est trop, maintenant, il nous faut des élections ». C'est le seul moyen pour moi et mon équipe d'éviter la guerre civile. Parce qu'on a été au bord de la guerre civile. Je crois qu'on a complètement oublié ça. Et curieusement, dans les négociations, celui qui va faire des concessions, c'est Joe Slovo. Alors ça qui est complètement peu connu du grand public, ce sont les fameuses « sunset clauses ». C'est-à-dire, on ne va pas en bloc se précipiter et mettre à la porte tous les fonctionnaires blancs. Parce que, et ça, ils sont quand même très réalistes, l'ANC n'a pas les moyens de remplacer les grands fonctionnaires qui font tourner les pays. Les ministres se suivent, mais les fonctionnaires restent. Eh bien, lui va imposer, va dire, on va garder ces fonctionnaires. C'est pour ça que le premier ministre des Finances va être un ministre des Finances de Klerk.
Blanc.
Et puis après, on changera peu à peu, au fur et à mesure. C'était très réaliste, la position de Joe Slovo, qui a été pas toujours bien comprise, d'ailleurs.
Pour conclure, est-ce qu'on pourrait dire, Jacqueline Derrens, que Mandela, l'ANC, était donc ce rempart contre la guerre civile ? Est-ce que Gorbatchev, parce que la question de la paix était au centre aussi des réformes de Gorbatchev, est-ce que, au moins de ce point de vue-là, Gorbatchev a réussi ?
Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez quand même un empire qui s'est effondré avec très très peu de morts. C'est incroyable ce qui s'est passé quand même entre 89 et 91, il faut le rappeler. En revanche, effectivement, c'est en dizaines de milliers de morts entre 1990 et 95. Sans doute de Klerk a poussé un peu, mais il y avait l'appareil sécurocrate qui aussi ne voulait pas de ces négociations et qui a essayé de les planter.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis l'état d'urgence a été déclaré en Afrique du Sud à partir de 1985. Et il y a un système sécuritaire qui s'est mis en place et à un moment donné, on pouvait se poser la question, qui dirige le pays ? Est-ce que ce sont les politiques ou est-ce que c'est l'armée ? Et ça, c'était la vraie question. Et l'ANC et le Parti communiste sud-africain étaient très conscients de ça. Donc, ils ont su négocier. Alors, bien sûr, quand on négocie, on fait des compromis. Mais ils ont fait un compromis, surtout éviter la guerre civile, qui était sur le point d'exploser. Et il y a cette fameuse commission vérité-réconciliation qui va se mettre en place. C'est-à-dire que le mandat de Mandela, ça a été la réconciliation. Ça n'a pas été les problèmes économiques, en fait.
Si je me permets de faire une autre comparaison...
Pierre Grosser, ce sera vraiment les derniers mots.
C'est que justement, certains reprochent à Mandela d'avoir fait trop de concessions, exactement comme on a reproché à Lech Walesa en Pologne, d'avoir fait aussi trop de concessions par rapport au régime communiste. Les deux, finalement, ont été critiqués par des durs ou des gens qui oublient finalement une conjoncture très particulière où il y avait des risques de violence tout à fait considérables.
Et qui oublient le maintien de la paix. Merci, merci à tous les deux. Je rappelle votre livre, Pierre Grosser, aux éditions Tempus, 1989, l'année où le monde a basculé. Et vos derniers ouvrages, Jacqueline Derrens, dont j'espère nous reparlerons dans la marche du monde, Femme d'Afrique du Sud, une histoire de résistance. Et bien sûr, le portrait de Dulce September, assassinée en 1988. La marche du monde, c'est tous les dimanches matins et à tout moment en podcast. Pour vous abonner, il vous suffit de choisir une appli de podcast sur votre téléphone et de choisir votre émission, La marche du monde. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous, réagissez. Cette émission réalisée par Sophie Janin, c'est la vôtre.
De profundis, l'URSS n'existe plus. C'est vrai qu'on l'a dit souvent depuis le mois d'août et que souvent les nouvelles qui nous viennent de là-bas sont difficiles à apprécier. Pourtant, celle-ci a de quoi rester en travers du gosier de Mikhail Gorbatchev. Je cite « Nous, République de Biélorussie, c'est l'ancienne Biélorussie, Fédération de Russie et d'Ukraine, nous constatons que l'URSS, en tant que sujet du droit international et réalité géopolitique, n'existe plus. » Fin de citation.
Musique du monde.